Radio Okapi.
À Kindu.
Okapi.
Sur 103 FM.
Okapi.
Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Bonjour chers auditeurs de l'émission Identité culturelle. Comme promis, nous poursuivrons notre émission avec les Missadi de la communauté Kasinga dans le territoire de Kasongo. Pour vous qui n'avez pas suivi la première partie de notre entretien, les Missadi sont le filles ici de la communauté Kasinga et elles représentent une valeur ajoutée culturelle de cette communauté. Notre invitée, c'est toujours Madame Jeanne Tabounasso, qui est aussi une Moussadi de cette communauté. Madame Jeanne Tabounasor, bonjour.
Bonjour Madame Florence Kiza.
Moi c'est Florence Kizalunga, comme elle venait de le dire, qui anime cette émission. Bienvenue à tous. Madame Jeanne Tabounasso, dites à nos auditeurs, notre thème ou sujet d'aujourd'hui, c'est quoi?
Oui, merci de nous avoir accordé la parole. Merci d'y revenir dans notre ancien sujet qu'on traitait sur les Missadi de la communauté Kasinga. La fois passée, nous avions parlé, nous avions présenté les Missadi. Il est qui? Qu'est-ce qu'il représente dans la communauté? Et aujourd'hui, nous allons continuer notre émission, toujours avec les mêmes thèmes des Missadi. Cette fois-ci, nous allons parler de certains comportements ou soit manières de vivre des Missadi dans leurs familles respectives.
Merci beaucoup de ces bons thèmes. Et déjà, le sujet, je pense que c'est tout le monde qui s'intéresse et il veut savoir comment vivent les Missadi dans la communauté. Alors, on peut démarrer. Dites-nous, c'est quoi ces comportements?
En fait, les Missadi, si je reviens encore, ce sont les filles de la maison, même si elle est déjà mariée. Quand elle rentre toujours chez elle à la maison, on l'appelle toujours Missadi avec beaucoup de valeur. Elle représente la valeur culturelle, comme je l'avais dit la fois dernière. Maintenant, cette fois-ci, nous allons échanger un peu avec vous. Vous allez nous suivre, les auditeurs, partout où vous vous trouvez, sur les comportements des Missadi quand elles sont chez elles, elles sont en famille. En famille, pas dans leur mariage, parce que dans leur mariage, il y a d'autres Missadi. Dans leur mariage, elles ne sont pas Missadi. Quand elles rentrent chez elles, à la maison, on les considère filles de la maison et les Missadi. Je parle d'abord en rapport avec les différentes circonstances qui surviennent dans les familles. Par exemple, les deuils, les mariages. Je peux commencer d'abord par les deuils. Les deuils, vous savez, quand il y a un deuil dans la famille, c'est tout le monde qui se mobilise et se réunit autour de la famille pour soutenir la famille. Et c'est aussi un retrouvaille. C'est un moyen qui permet à la famille de se retrouver, dont les fille aussi de la famille que nous appelons Missadi, même si elle est mariée, loin, si elle a la possibilité de venir au deuil, elle peut venir. Ça, c'est la coutume de chez nous. Parce que s'il y a un deuil en famille, tu as la possibilité d'y arriver. Si tu ne le fais pas vraiment, ça ne représente pas un bon comportement social.
C'est comme, on dirait, un péché pour vous.
Pas un péché comme tel. C'est comme si vous vous désolidarisez de la famille. C'est pas un péché. Mais si vous avez d'autres occupations. Mais en fait, même si vous vous déplacez, il faut qu'il y ait l'autorisation de votre mari. Vous n'allez pas quitter aussi longtemps que votre mari vous accorde la permission. Maintenant, une fois en famille, là, je peux rire un peu.
Oui, il faut rire.
C'est nous, je suis Missadi, je ne peux pas me dire aujourd'hui parce que je ne vis pas chez nous, je suis en ville, je suis toujours Missadi. Là, nous nous considérons comme des petites déesses parce que on nous doit d'abord du respect. Vous arrivez, vous êtes nombreux, c'est un retrouvaille, vous êtes dans, on vous donne toute une maison, hein, les jours de deuil, après enterrement, vous vous retrouvez avec vos enfants, là, vous êtes là, vous parlez, vous causez, chacun donne son sujet, comment est-ce qu'elle vit dans son foyer, maintenant, vous allez commencer à parler pour ce qui concerne la famille. À prime abord, je disais que vous êtes considérés comme des petites déesses, là, pour même pour se laver, tu ne peux pas. Tu n'as pas droit à prendre ni les seaux, aller à la source, non. Même si tu ne te laves pas chez toi des fois par jour à la maison, quand tu es chez toi là-bas pendant les deuils, là tu vas prendre ces deux fois par jour. là, tu es le matin, on vous donne de l'eau chaude, et après avoir pris de l'eau chaude, on vous donne les petits déjeuners de chez nous, là, vous savez, on chauffe la nourriture, les bananes, si c'est la période des moissons, si c'est les arachides, les maïs, c'est une très belle vie. Là, vraiment, quand nous nous retrouvons, on est aux aïeux, voulais-je dire. Vous êtes vraiment très à l'aise. Maintenant, les femmes de nos frères, elles sont là, elles nous craignent.
Pourquoi?
Parce que nous avons la parole, nous avons le droit de parler. Là, nos frères ne parlent pas. Si un frère ose de parler, quand on menace sa femme, nous allons tous attaquer le frère disant qu'il est dominé par sa femme. Ce sont des comportements que nous, on affiche au deuil. Vous prenez de l'eau le matin, le soir. Si vous voyez la femme de votre frère avec un beau foulard, pourquoi elle doit porter ça? Et pourtant, vous êtes pendant le deuil. Les babouches, là, on n'en parle même pas. Nos femmes, nos sœurs, les femmes de nos frères, il ne faut même pas échanger les habits. Il faut que tu sois avec la même tenue que tu as trouvé le jour du deuil jusqu'au jour où vous allez faire le lever de deuil. Là, vous êtes là, on vous amène la nourriture. Et quand on vous amène la nourriture, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ce qu'on va donner au Misadi, ça doit être quelque chose de conséquent, très conséquent. Et en plus, le système de chez nous, quand on est en deuil, il y a les villages voisins, il y a les belles familles qui amènent la nourriture. Cette nourriture, si c'est cuite, il faut que la moussade soit là avant qu'on puisse ouvrir ça. Même pour le partage, il faut que la plus grande moussade, la plus âgée, la tante, il faut qu'elle soit là pour donner les orientations. À ce moment-là, ce n'est plus l'affaire de nos frères, c'est l'affaire de nous, les moussades.
Et si on arrivait à partager cette nourriture avant que toi, la moussade, tu sois là, qu'est-ce qui va arriver?
Souvent, ça n'arrive pas. Si on les fait, on ne peut même pas oser. Si on les fait, nous n'allons pas manger. Nous allons faire toute la journée sans manger cette nourriture qui sera préparée dans cette clôture, dans cette maison. Et quand les misadis se fâchent comme ça, non, ce sont les femmes de nos frères qui vont trembloter. Ce sont les pauvres dames qui souffrent. Il faut que chacune parmi elles rentre chez elles pour chercher la nourriture à nous donner. Bon, on se demande parfois, je me demande aujourd'hui, c'est pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ce n'est pas et qui ont tué la personne, mais la culture l'oblige. Il faut aller chercher des poules, ceux qui sont vraiment avec des richesses traditionnelles. On amène des chèvres, des paniers de manioc, on amène aussi l'huile. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'ajoute encore. On demandait pas souvent les foulards, mais on ne demande plus les foulards. Pour toutes les femmes mariées du village qui ont perdu, par exemple, leur beau-frère, ou soit leur beau-père, leur belle-mère, ils vont commencer à donner des pagnes. Nous sommes là. Les soirs, on se retrouve là, on commence à discuter. Nous avions eu combien de pagnes? On arrive dans des grandes familles, on peut réaliser même 30, 40 pagnes en provenance des femmes de nos frères. Et ce sont les ambiances l'ambiance qui passe dans les deuils là chez nous.
Ça, je comprends bien, c'est lorsque les deuils est de votre côté et que les femmes de vos frères doivent agir ainsi à votre égard. Maintenant, si c'est vous qui allez agir aux côtés des autres, vous faites comment?
C'est vice versa. Si c'est moi, ça me retrouve que ma belle famille est en deuil. Je dois être traitée de la même manière que moi je traite les femmes de mon frère.
Mais c'est ces derniers temps, on observe qu'il y a un peu d'exagération dans ce que font les Misadi. Certains décrivent ça parce que c'est comme si c'est un règlement des comptes. Mais est-ce que ça devait être comme ça?
Non. De toutes les façons, la manière dont le comportement là de demander la nourriture, moi, ça ne dérangeait pas. C'était un fair play. Quand vous vous retrouvez en famille, c'est un retrouvaille. C'était une façon de se taquiner en famille entre belle-sœur et la femme de son frère. Maintenant, aujourd'hui, l'ampleur que nous sommes en train de remarquer, ça commence à avoir des dérapages. Ça exagère. Par exemple, si vous demandez à la femme de votre frère, avant de pleurer son beau-frère, il faut amener un pièce de pagne. Il faut amener les foulards. Il faut amener les mbongo ya makolo. Si vous donnez la nourriture, avant de manger cette nourriture, il faut donner l'argent. Il faut donner, il faut donner. Là, vous allez vous rendre compte, quand nous sommes dans la maison, il y a des choses remplies, hein, les jours où nous allons rentrer là chez nous. Si c'était l'épaule, nous nous distribuons. Et pourtant, c'était quelque chose de fair play, de symbolique, de la solidarité familiale. Mais aujourd'hui, ça commence à donner une autre ampleur avec exagération. C'est de la même manière que ce qui se passe quand il s'agit de la femme de mon frère qui est décédé, la manière dont la femme de mon grand frère sera traitée par nous, les Missadi. Partout ailleurs, on dit que non, ce sont par exemple, il faut laver, il faut donner les biens, il faut. D'une manière culturelle, les biens symboliques là se faisaient. Mais aujourd'hui, ça commence à donner une autre ampleur. On commence à exagérer. On demande des choses, surtout si c'est un monsieur qui avait un peu de moyens et la femme vraiment qui avait perdu son mari. Et pourtant, c'est elle qui est souffrante plus que tout le monde. La manière dont cette dame sera traitée, ça commence à déranger, ça commence à exagérer.
Dites-nous, traditionnellement, comment est-ce que vous traitez la femme de votre frère après la mort, l'épouse de votre frère après la mort de votre frère?
Traditionnellement, c'est la plus grande Moussadi, la plus âgée, surtout les tantes qui s'en occupent. Et elle reste là, on la donne une natte sur une natte. Et pour manger, il faut qu'elle mange avec l'autorisation de la tante, la grande Moussadi. C'est elle qui va donner la nourriture. Et pour parler, il faut qu'elle ait l'autorisation de la tante. Elle ne peut même pas parler. Et pour faire n'importe quoi que ce soit, pour aller à la toilette aussi. Ce sont des choses que nous nous rendons compte, ce sont des exagérations. Ce sont des violences basées sur les gens, si je peux conclure dans ce sens. Que nous même, on les faisait, on observait quand les gens les faisaient dans nos familles, mais on se rend compte maintenant que ce sont des cas de violence que les femmes faisaient envers elles-mêmes. Tu ne peux pas voir un homme quitter le Barza là-bas et venir voir comment est-ce que la femme qui a perdu son mari est en train de vivre, comment est-ce que ça évolue. Mais c'est la tante, la grande Moussadi. Pour aller à la toilette, il faut sa permission. Il faut qu'elle elle accompagne. Si maintenant elle a une mauvaise dent envers vous, si vous ne donnez pas la nourriture, là vous allez voir et vous allez chier et uriner dans tes pagnes là. Il faut qu'elle accorde pour aller uriner. Vraiment, je vous assure, ce sont des pratiques néfastes. Parce qu'il y a des bonnes pratiques, comme j'avais dit, les fair play là, la nourriture. Ce sont la solidarité de la famille. Mais quand les gens commencent, entre les femmes commencent à poser des actes pareils, tu te dis comme Moussa dit, ce sont les actes que nous sommes en train de décourager. Ce n'est même pas la culture, c'est une violence. Parce que la culture, il y a les bonnes choses que nous devons capitaliser et les mauvaises choses que nous devons bannir.
En vous entendant parler, c'est comme si cette pratique est aujourd'hui, à vous, l'émissaire, vous ne tenez plus compte de ça. Vous faites autrement, contrairement à votre coutume.
Bon, en fait, il y a la parole de Dieu aussi, la religion. Tout ce que nous on faisait, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des bonnes pratiques culturelles et les mauvaises pratiques, qui est même en dehors de la loi divine. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son mari, on la traite de la manière. Vous vous rendez compte vous-même, elle est traumatisée davantage. Lui ajouter encore un autre traumatisme, c'est quelque chose que nous sommes en train de décourager. En fait, si vous voyez pour l'homme, si c'est l'homme qui avait perdu sa femme, l'homme ne subit pas tout ça. C'est seulement la femme, parce qu'il y a les grandes Missadi qui font la loi dans la famille. Pour l'homme, ça ne se passe pas comme ça. Il est là stable, il n'a pas de problème, il est là, il est bien protégé. Mais la femme, et chaque matin, tu dois te laver à 4h du matin pour prendre de l'eau froide. C'est ça. Tout ça, ce sont des pratiques que nous sommes en train de décourager dans nos familles, dans nos communautés, et disant que les pratiques qui peuvent nous aider à émerger, à conserver notre union, à conserver la paix dans la famille, nous devons les capitaliser. Tout ce qui est en dehors de la loi, petit à petit, on est en train de bannir. Et même si nous nous rencontrons avec des résistances farouches, on est en train de voir dans lesquelles mesures où nous sommes en train de convaincre petit à petit les membres de la communauté.
Et au finish, qu'est-ce que vous faites avec la femme de votre fille, frère, après l'avoir soumise dans ces conditions? Ça va prendre combien de temps? Et à la fin, elle sera qui?
Normalement, il y a les trois jours intenses là après l'enterrement, c'est là où il y a vraiment beaucoup de rites. Après 3 jours, ça commence un peu à s'améliorer, ça va jusqu'à 40 jours culturellement. Mais sur le plan religieux, tout ce que les gens font là, c'est contre la parole de Dieu. Tu peux te rendre compte dans une famille où ils ont déjà compris la parole de Dieu. Quand le mari est décédé, on donne les matelas à sa femme pour qu'elle puisse se déposer là-bas pour éviter à ce qu'elle puisse avoir plus de traumatismes. On lui donne la nourriture, elle est là, elle s'occupe de la prière et pendant un certain temps, si elle se rend compte qu'elle doit rentrer dans sa famille, elle rentre dans la famille parce que le système ancien là qu'on donnait aux petits frères n'existe plus.
C'est-à-dire c'est pas vous les missades qui allez décider si elle peut rester avec les enfants ou bien elle doit aller, c'est volontaire pour elle-même.
Oui, c'est volontaire. Si elle est devenue plus âgée, elle juge utile de rester à la famille avec ses enfants, ses grands enfants, elle peut rester. Si elle décide de rentrer chez elle, elle peut rentrer chez elle.
Et quand elle reste comme ça, c'est maintenant en considération d'une grande famille comme vous avez été bien avant la mort de votre frère.
Oui, elle sera toujours intégrée dans la famille. Elle va participer à toutes les activités de la famille. Et la même considération qu'elle avait quand son fait mari était en vie, elle aura toujours la même considération.
Auditeurs, auditrices, nous sommes en train de parler du comportement social des Missadi dans la communauté. Aujourd'hui, avec Madame Janta Bounassor, vous qui venez de nous capter en cours de diffusion, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Madame, nous allons poursuivre. Et là, vous nous avez parlé de ces comportements du côté des circonstances douloureuses. Maintenant, nous sommes dans des circonstances de joie. Maintenant, dans des circonstances de joie. Quand il s'agit, par exemple, du mariage, ou bien de la naissance d'un enfant, comment est-ce que les Missadi se comportent?
Bon, en fait, vous venez de parler de deux points importants. Pour la naissance d'abord des enfants, là aussi on s'est imposé, la femme du grand frère, tu n'as pas droit à donner les noms, tu n'as pas droit. C'est la grande Missadi là qui doit donner les noms, voir qui est-ce qu'on va donner les noms de la famille. Là vraiment, ça ne pose pas de problème, on se comprend facilement. Dans la circonstance encore des joies, par exemple, les mariages, souvent, c'était par rap. Les mariages par rap, je pense que vous connaissez. Les rap, c'est quand les deux amis, filles et garçons, se rencontrent. Ils vont se dire que nous allons nous marier. Ou soit ça arrive qu'un garçon voit une fille qui passe dans le village, qui vit dans un village. Il peut venir même dans les circonstances d'un autre mariage. Parce que pour les mariages des rap, même si on a fait cette pratique des rap, il y aura un temps que la famille de la fille va quitter leur village pour venir réclamer la dot. Quand la famille viendra réclamer la dot, il y aura la joie, on va leur donner ils vont chanter, on va danser. C'est le mariage maintenant. C'était les rap, ça devient mariage.
Ah, c'est-à-dire, quand vous parlez des rap, c'est-à-dire une façon de prendre, de soustraire la fille avant toute cérémonie ou bien avant les accords des parents.
Avant rencontre d'abord, on ne s'est pas encore vu, on te piège seulement, on te prend, on fait la filature, on se rend compte que c'est un garçon de tel village qui avait pris une fille. Et après, la famille va suivre là-bas pour aller demander la dot. Maintenant, quand la famille va suivre pour aller demander la dot, il y aura aussi une autre cérémonie quand on donne les chèvres, parce que un garçon ne peut pas faire ça aussi longtemps qu'il ne s'est pas encore préparé en famille. Il va faire ça. D'ailleurs, c'est le papa qui disait à son fils que toi, tu es déjà mature, cherche la femme. Quand la famille va venir, on va trouver tout, la nourriture, la dot. Quand on donne la nourriture, on danse. C'est aussi une autre occasion. C'est une joie dans les villages. C'est une autre occasion d'un autre garçon prendre soit une autre fille dans ce même village. Vous voyez, quand il y a les mariages dans les villages, ce sont tout le monde qui vient pour danser. Les filles et les garçons sont là. S'ils ont déjà ciblé une fille, ils en profitent aussi pour prendre une fille. Ça devient comme une chaîne, hein. Tu vois le type de mariage de chez nous là d'une manière culturelle. Même sans consentement. Et il faut voir la manière dont ça s'est passé. On te prend, on te ligote, on te chicote. Ils vont tout faire si tu étais encore vierge pour te dévierger. Il faut que la famille trouve que la fille est déjà déflorée et tu te maries. Un homme que tu ne connais pas. Tu vois le type de mariage d'érable.
Et ça vous faisait plaisir quand...
Oh. C'était comme ça, c'était bon, ouais.
Et c'était toujours à toutes les filles on devait faire ça?
Pas nécessairement, parce qu'il y a les familles qui avaient déjà compris d'ailleurs ils déplaçaient leurs filles, les faire quitter au village pour aller faire étudier les filles dans les milieux plus ou moins nantis. aussi pour éviter ce genre de comportement. En tout cas, si vous laissez la fille au village, là, elle doit être victime de ça.
Et la fille n'a pas le droit de refuser ou bien... En tout cas, de refuser ce comportement ou bien cette pratique, c'est ce que ça vous faisait plaisir.
Bon, la fille, j'avais dit que la fille sera ligotée, la fille sera chicotée, tu vas entrer au mariage avec les blessures.
Maintenant, quand la fille entre au mariage par blessure, je pense qu'il y aura des sanctions, des peines, des choses à donner par rapport à ça.
Oui, tout ça on paye, parce que j'ai dit que quand un garçon se donne à poser de tels comportements, c'est pour dire qu'il s'est déjà préparé dans la famille, ou soit c'est le papa qui l'a envoyé d'aller chercher une femme. C'était une façon de marier, mais aujourd'hui, je ne confirme pas que ce système existe. On est en train de battre, les gens ont déjà compris avec la loi sur la violence sexuelle, mais ce n'est pas facile. Quand on leur parle sur la loi sur la violence sexuelle, ils disent toujours au village que quand nous on s'est mariés, nos mamans, si c'est les papas, le papa nous dit que j'avais marié votre maman à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous tous, vous êtes ici d'un mariage d'une femme qui s'est mariée à l'âge de 14 ans. Tu vois ce que ça fait? Mais avec la loi sur la violence sexuelle, en tout cas, ce type de mariage est en train de disparaître dans la communauté.
Les mariages en question par rap et le mariage coutumier, ça se faisait comment ou bien ça se fait comment?
Bon, pour les mariages par rap, j'ai déjà donné les explications en synthèse. C'est un garçon qui voit une fille passer.
Il les prend par force.
Il les prend par force. On chicote, on ligote, on l'amène chez les garçons. Il y a la famille qui suit pour aller demander la dot. Et la fille reste au mariage et elle va faire les enfants là-bas toute sa vie. Les mariages coutumiers, parce qu'il y a d'autres familles résistantes. Parce qu'il y a d'autres parents, si vous osez apprendre sa fille par rap, elle va prendre son arme, hein, les armes traditionnelles là, les fusils, les machettes. Si il se rend compte que c'est dans cette maison que sa fille a été cachée, il ira là-bas, il va brûler les maisons, il va faire les histoires, prendre les choses. Vous vous rendez compte que dans cette famille, tu ne peux pas oser avec les types de mariage qui fournit un effort pour marier d'une manière coutumière. Et d'une manière coutumière, la fois dernière, j'avais dit que si une maman fait une fille dans la famille, c'est le jour que la fille sera née qu'elle va commencer à préparer le nécessaire pour son mariage. Et au fur et à mesure que la fille est en train de grandir, mes chers auditeurs, vous allez m'excuser de reprendre encore, c'est pour une meilleure compréhension.
En tout cas.
Elle achète chaque jour casserole, assiette, cuillère, tamis, tout, tout, tout. Quand on vient marier coutumièrement, c'est la belle famille, les papas du garçon, ou soit les frères, oncles paternels, qui viennent chercher la main de la fille dans l'autre village. Ils viennent, ils disent que nous avions vu votre fille ici, nous avons aussi notre garçon, nous voulons assez que notre garçon puisse épouser votre fille. Même si la fille ne connaît même pas encore les garçons. Maintenant, on laisse le temps aux filles et aux garçons de se connaître. Quand les parents acceptent directement, la fille aussi doit accepter. Maintenant, on demande la dot, et la dot se faisait toujours en nature. On donne les chèvres, on donne les nécessaires pour la maman, et tout, on se prépare. Maintenant, on va donner aussi la plus grande chèvre, c'est quelque chose que j'avais oublié. Même si vous mariez une fille dans notre communauté, c'est d'ailleurs dans plusieurs communautés de chez nous, il faut préparer une très grande chèvre que toute la famille va manger. Ça, on ne compte même pas pour la dette. On ne compte pas pour la dot, voulais-je dire. On donne cette grande chèvre, les boucs toujours qui ont déjà des cornes trop longues et courbées. On va égorger. Quand on égorge ces boucs, c'est toute la famille, différentes lignées. On donne petit, on mange, on verse le sang, on se lave les mains pour dire que nous avions accepté à ce que notre fille aille au mariage. On donne aussi la dot, on donne aussi le nécessaire pour sa maman. Maintenant, ça va arriver le moment de prendre la fille et l'amener à sa belle famille. Vous vous fixez les rendez-vous. Ça se faisait toujours. Il faut qu'on arrive là-bas la nuit. Vous vous préparez. Si vous êtes dans les villages qui ont des distances, par exemple, une distance de 15 km, 20 km, vous allez quitter pour faire assez que vous arrivez la nuit un peu tard. Par exemple, à 21h, 22h, vous quittez ici, vous prenez tout ce qui a été préparé pour le mariage de la fille, les habits, tout le nécessaire avec la fille et la mariée en question. Vous commencez à aller vraiment vers les villages voisins. Là, vous allez vous rendre compte. Il arrivait parfois, si c'était une fille qui était sollicitée par des garçons, quand vous quittez
quitter le village pour aller là-bas. Si elle ne voulait pas ce mariage, il peut y avoir un autre garçon qui peut venir et prendre cette fille.
Elle va
en cours de route.
En cours de route.
Et maintenant, à des circonstances pareilles, qu'est-ce que vous allez faire vos familles?
C'était chaud. C'est chaud. Ce sont des histoires qui s'est passées chez nous. Oui. Vraiment. Quand vous arrivez là-bas, vous n'allez pas arriver pendant la journée. Il faut arriver la nuit. Et la nuit là, il faut qu'on vous donne la nourriture que vous allez manger la nuit seulement. Cette nourriture, il faut manger la nuit. On appelait les kibufuku, bufuku, les trucs de nuit. Si je parle en français, là vous mangez les chèvres, si c'est combien qu'on va donner, on donne cette nourriture, c'est vous-même qui va préparer. On vous donne cuire les chèvres, la farine, les riz, l'huile, tout on vous prépare. Le temps que les femmes des grands frères de la mariée sont en train de préparer la nourriture, il y a d'autres membres, on danse maintenant dans les villages, on danse, on joue, les tam-tam, une occasion aussi pour une autre fille d'être mariée par rap. Tu vois les histoires comme ça. Si vous terminez la journée maintenant, et pour cette même occasion la nuit, c'est le temps que les mariés s'en occupent pour consommer leur mariage. Il y a d'autres qui dansent, il y a d'autres qui s'en occupent de suivre cette histoire de l'autre côté. Maintenant, si les garçons n'arrivent pas à diverger la fille, vous allez rester là-bas même 3 jours. Si ça n'arrive pas pendant 3 jours, la grande partie de la délégation va rentrer. Il y aura une ou deux personnes de la famille de la...
Surtout les Moussadi.
Les Moussadi et la femme de son grand frère qui vont rester là-bas pour suivre l'évolution. Maintenant, si c'est le matin, là, on vous a déjà donné la nourriture de la nuit. Le matin, maintenant, c'est un autre tour. On vous donne les trucs de la journée. C'était seulement les manger.
Boire, manger, danser.
Boire là chez nous, c'est pas...
Vous pouvez même boire de l'eau.
On boit de l'eau comme d'habitude. On boit de l'eau comme d'habitude. Chez nous, là, les mariages, on ne donne pas les vins. On ne donne pas l'alcool, on ne donne pas. C'est les chèvres, les trucs, la nourriture seulement. La journée, on donne encore d'autres chèvres, les foufous, les trucs. Vous commencez à préparer. Ça, c'est le vrai mariage que tous les villages, on danse jusqu'au soir. Maintenant, vous allez rentrer et au retour, il y aura des chèvres qu'on va vous donner.
Pour accompagner
la délégation. C'est ça les mariages coutumiers de chez nous, madame.
Madame Jeanne Tabounassor, merci beaucoup pour ces explications sur les comportements sociaux des Missadi dans la communauté.
Merci madame, c'est nous qui vous remercions vraiment sincèrement.
Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons parlé du comportement social des Missadi dans la communauté. On nous a parlé des comportements des Missadi dans des circonstances douloureuses, dans les circonstances des joies. Vous avez suivi en long et en large madame Jeanne Tabounassor, qui est aussi une Missadi de la communauté Kasenga. Je suis Florence Kizalunga. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.
Radio Okapi.
À Kindu.
Okapi.
Sur 103 FM.
Okapi.
Yara Chouniana. Chouniana. Misad. Oye po. DJ Fast. Ingénieur des sons. Papa Nyakeina. Twen. Asante Masoud. Crémogène. Chauffeur. Twen.